Vous êtes sur Easy French.
Bonjour.
Bonjour Hélène.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien. Pour commencer aujourd'hui, on va, si vous voulez bien, écouter un petit message.
Mm-hmm.
Allez, c'est parti.
Bonjour, je voudrais vous remercier tellement pour votre podcast. J'écoute quand je cuisine et c'est toujours un plaisir. Moi, je suis Nathalie, je suis américaine et j'habite à Mayotte, à l'île près de Madagascar, avec mon copain français. J'ai un peu d'histoire un peu bizarre parce que je suis allée en France en janvier de 2023. Et en juillet, j'ai déménagé encore à Mayotte. C'était une année avec beaucoup de changements. Et en plus, c'était la première fois que j'apprends français. Donc, j'apprends depuis un an. C'était un peu dur, mais j'ai essayé tellement de faire l'apprentissage dans une manière très naturelle. J'ai des difficultés de temps en temps de comprendre les Français, spécialement quand je vais aux apéros avec les Français. Avec le verlan, avec l'humour français, c'est très nuancé. Donc, je veux vous demander si vous avez des conseils pour les expats en France pour comment survivre dans les situations où on ne peut rien comprendre. Merci.
C'est une vraie question.
C'est une vraie question, ouais. Et j'ai essayé d'y réfléchir un peu parce que moi, j'ai expérimenté ça en Allemagne. Mmh. Je parlais plutôt bien la langue, mais c'est vrai que pendant les soirées, les gens oublient un peu qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas tout et se lâchent un peu, parlent très vite, tous en même temps, racontent des anecdotes. C'est vraiment, vraiment pas facile. Ce qu'on peut te conseiller dans ces moments-là un peu de crise, c'est peut-être juste de dire aux gens que tu ne comprends pas tout, leur demander de ralentir un peu, et tu peux le dire de manière humoristique peut-être, leur rappeler « Hey, oh, je ne suis pas française, moi. S'il vous plaît, faites un effort. » Mais gentiment et en rigolant un peu. Et je pense que les gens vont peut-être essayer de modifier un peu leur rythme de parole pour toi. Et si vraiment tu vois que c'est impossible, bah juste écouter et boire beaucoup.
Ça, c'est un très, très bon conseil. C'est vrai qu'on l'a expérimenté et les gens nous le disent que quand ils boivent plus d'alcool, leur français s'améliore. Enfin, on vous incite pas, bien sûr, à boire trop d'alcool. Et qu'est-ce que tu penses, Hélène, de regarder, par exemple, la série drôle sur Netflix?
Ah ouais, c'est une série sur l'humour qui met en scène des comédiens de stand-up. Donc, ça peut te permettre de te familiariser peut-être avec l'humour à la française. Et bien sûr, une récente vidéo qu'on a filmée où on demandait aux gens de nous raconter des blagues. Ça peut aussi aider. Et bien sûr, ce podcast aussi, tout ce genre de choses qui peuvent s'apparenter à des situations de la vie quotidienne, mais qui ne le sont pas vraiment.
Mmh. Et cet épisode, on a quand même été assez, je dirais pas déçus, mais les blagues des Français n'étaient quand même pas très drôles.
Oui, mais on les a aussi vraiment pris par surprise, les gens n'étaient pas préparés. Mais je dois avouer que la blague de la femme suisse, je l'ai trouvé très drôle.
Ouais, très drôle. Mais c'est l'humour suisse un peu décalé, quoi.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai découvert plus tard que cette femme était une politicienne assez connue dans son pays.
Waouh !
Qu'on a eu bien de la chance de l'interviewer. Et en plus, c'était vraiment la personne avec qui on a le mieux parlé dans l'épisode, avec qui c'était le plus sympa. Donc, bravo à elle. Et c'était même pas sa langue maternelle.
C'est vrai. On va pouvoir passer au cœur de l'épisode.
Ouais. Bon courage à toi, Nathalie, et à vous aussi, les amis. Et restez bien accrochés.
Le sujet de la semaine.
Aujourd'hui, les amis, comme souvent, on a choisi comme sujet un sujet de conversation qu'on a eu il y a quelques jours.
Mmh. Complètement par hasard.
Complètement par hasard. Je ne sais même pas pourquoi on a commencé à parler de ce sujet, mais on a trouvé que c'était une discussion assez intéressante. Donc, on s'est dit, pourquoi pas la partager avec vous.
Mmh. beaucoup de suspense. Et donc, le sujet, c'est...
C'est le scoutisme, le mouvement scout ou éclaireur. Il y a ces deux noms, en tout cas en français, qui est donc un mouvement éducatif international. Et nous deux, on a expérimenté un peu ça quand on était plus jeunes. On s'est dit que beaucoup de personnes l'avaient peut-être aussi expérimenté parce que c'est vraiment un mouvement international qui existe dans beaucoup de pays dans le monde.
Ouais, je pense que beaucoup des gens qui nous écoutent ont dû forcément faire une activité ou un camp scout en été.
Ouais.
Je suis sûre que tout le monde a un avis un petit peu sur la question. Et nous, on a décidé aujourd'hui de partager notre avis sur cette question.
C'est ça. Avant de raconter des choses un peu personnelles, on va déjà définir peut-être le scoutisme. Parce que même si c'est connu, tout le monde ne connaît pas, ou en tout cas pas dans les détails. Déjà, le but de ce mouvement éducatif, c'est d'aider les jeunes, les enfants et les adolescents à se développer personnellement et en tant que groupe. Et c'est basé sur l'apprentissage par l'expérience et la solidarité. Concrètement, les jeunes font ensemble des activités en plein air et ils apprennent des compétences pratiques comme la navigation ou le camping. Et tout cela s'est fait en cultivant des valeurs comme le respect, la responsabilité et la solidarité. Les activités sont assez variées, mais souvent, leur point commun, c'est qu'elles sont pratiquées à l'extérieur. Il y a donc du camping, de la randonnée, des jeux en groupe, plus ou moins sportifs, des projets communautaires. Et tout cela, ça favorise en fait le développement physique, mental, social et même spirituel des jeunes.
Ça, c'est sur le papier.
C'est ça, exactement. Les scouts, ces jeunes qui font partie de ce mouvement, sont encouragés à prendre des responsabilités dans le groupe, à développer leur leadership et à apprendre à faire beaucoup de choses en équipe. C'est donc une philosophie d'apprentissage informel. On est encouragé à découvrir les choses par soi-même, mais il y a quand même une supervision parce que ce sont des enfants, n'est-ce pas? Et donc, il y a les animateurs qu'on appelle souvent des chefs dans le scoutisme, qui sont des jeunes aussi quand même, un peu plus âgés et bien sûr majeurs que les jeunes qu'ils encadrent. Ces animateurs transmettent les valeurs du scoutisme comme l'honnêteté, le respect, la loyauté et essayent d'intégrer ces valeurs dans les activités. Le but, en fait, c'est de préparer ces jeunes à devenir des citoyens engagés, responsables et altruistes.
Ils sont très très jeunes, les animateurs. Enfin, moi, dans le mouvement où j'étais, on appelait ça des animateurs. En y réfléchissant, surtout maintenant que je suis maman, je me dis, mais jamais de la vie, je confie mon enfant à un jeune de 18 ans, mais jamais de la vie.
C'est vrai, les animateurs ont en général entre 18 et 25 ans.
Ouais.
Mais il y en a beaucoup qui sont très très jeunes, effectivement. Et toi, tu as d'ailleurs été animatrice aussi.
J'ai été animatrice, ouais.
Et tu as aussi été une jeune scout.
J'ai été scout depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 21, 22 ans, je crois. Le dernier camp que j'ai fait, j'étais cuistotte, donc cuisinière pour les enfants.
Ah, c'est cool ça, j'aurais bien aimé.
Ah, être cuisinière, ah oui.
Ouais.
Non, j'ai cru que tu allais dire, j'aurais bien aimé que tu me prépares à manger. Et toi, t'as été scout combien de temps?
Alors, comme toi, j'ai commencé à 8 ans. Je pense que c'est souvent l'âge où les enfants peuvent commencer. Et pareil, ce qui est quand même très jeune pour être sans les parents, la nuit, pendant plusieurs jours, etc.
Pendant 3 semaines, nous, c'était 3 semaines les camps
d'été. Ah ouais?
Ouais.
À moi, quand j'étais petite, de 8 à 11 ans, c'était 1 semaine.
Mmh.
Et après, c'était 2 semaines.
Ok.
3 semaines, waouh, c'est long.
C'est long, ouais.
Donc, j'ai commencé à 8 ans et j'ai arrêté à 14 ans.
Ok.
Ça a quand même duré quelques années.
Et t'y allais vraiment tous les étés?
Ouais, j'y suis allée tous les étés de mes 8 à mes 14 ans. Et bien sûr, c'était pas que l'été. Il y avait des week-ends où on partait camper pendant 24 heures. Et déjà, ça, c'était une grande aventure.
Ah, il peut se passer plein de choses en 24 heures. Hein.
Ouais, à cet âge-là. C'est ça. Donc, on va vous parler un peu, les amis, de nos expériences, un peu plus en détail. J'espère que vous avez envie d'en savoir plus. Restez bien avec nous.
En écoutant notre podcast, vous améliorez votre compréhension orale et enrichissez votre vocabulaire, tout en découvrant à chaque épisode de nouveaux aspects de la culture française. pour améliorer les autres aspects de votre français, en particulier la production orale, on vous recommande vivement de compléter l'écoute de ce podcast par une interaction directe avec un francophone qui saura vous donner des feedbacks et des explications adaptées à vos besoins.
Pour cela, on vous conseille vivement la plateforme Italki, le sponsor de cet épisode. Sur Italki, vous pouvez réserver des cours particuliers de français en ligne de manière complètement flexible, sans engagement. Il y a des centaines de professeurs différents et tous les horaires possibles. Beaucoup de professeurs proposent des cours d'essai à bas prix, ce qui vous permet de tester différents cours avant de trouver celui qui vous convient. En plus, si vous passez par notre lien, go.italki.com/easyfrenchpodcast, qu'on vous mettra aussi dans la description, Italki vous offre $10 de crédit après une dépense de $20 sur la plateforme. Beaucoup de nos abonnés ont adopté Italki et nous ont partagé des retours extrêmement positifs sur les progrès qu'ils ont faits grâce à leurs professeurs. Alors, passez par notre lien, testez-le aussi et dites-nous ce que vous en avez pensé.
J'ai capté.
On a parlé du scoutisme, on a déjà donné quelques informations générales sur ce que c'est, on a commencé à aborder un peu nos expériences personnelles. Mais pour vraiment continuer et que tout le monde comprenne de quoi on parle, je pense que ça pourrait être intéressant de donner les différents mouvements scouts qui existent en France. Est-ce que tu en connais ?
Ouais, quand j'étais petite, j'adorais connaître les acronymes.
Ah oui.
Moi, j'appartenais au mouvement des EEIF, donc les éclaireurs et éclaireuses israélites de France, donc c'est les scouts juifs.
Ouais.
Il y avait, on les appelait les SDF, mais c'était les scouts de France.
C'est ça, scouts de France. Et il y a quelques années, c'est devenu SGDF pour scouts et guides de France. Parce que les guides, c'était les filles.
D'accord.
Et les scouts, c'était le mouvement masculin ou mixte parfois. Et en fait, il y a quelques années, ça s'est regroupé en scouts et guides de France. Et ça, c'est ce que j'ai fait.
Ok, il y avait les SUF ou les SUF, je ne sais pas comment on disait, mais c'était les scouts unitaires de France. Il me semble que eux, ça s'affilait droit. C'était plutôt carré, non ?
Ouais, exactement. On disait les SUF.
Ouais, les SUF.
Comme les SGDF, c'était des scouts de confession catholique, mais eux, les SUF, étaient connus pour être beaucoup plus stricts du point de vue religieux et aussi du point de vue de...
Politique un peu, non ? Ils étaient de droite, non ?
Oui, voilà. C'était connu pour être assez strict, assez conservateur.
Ouais.
Contrairement aux scouts et guides de France qui étaient connus pour être un peu plus relâchés, on va dire.
Ouais. Il y avait les SMF aussi, les scouts musulmans de France.
Ah ouais, tu connaissais bien, hein ?
J'aimais bien, ouais. Il y en a d'autres ?
Ouais, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. J'ai même pas tout noté parce qu'il y en a vraiment beaucoup des mouvements. Il y a les scouts d'Europe qui sont...
Eux aussi, ils sont...
Ils sont stricts.
Ouais.
Ouais. C'est aussi un mouvement catholique et ils sont aussi connus pour être assez stricts. D'ailleurs, il me semble que chez les scouts unitaires et les scouts d'Europe, c'était pas mixte. Les garçons et les filles étaient chacun de leur côté. Et chez les scouts de France, c'était mélangé. Et donc, ça, c'était une des grandes différences, on va dire. Pour les autres, je sais pas, j'avoue.
Je pense que les autres, c'est mixte. Hein.
Ouais. Toi, c'était mixte ?
Oui,
chez toi ?
Oui, c'était mixte.
Il y a aussi les éclaireurs protestants et les éclaireurs protestants, que j'ai déjà dit. Mais il y en a d'autres encore.
Ouais. Nous, sur le point de vue scoutisme, c'était léger, la partie scoutisme de notre mouvement,
ouais.
Les constructions, le camping, le fait de pouvoir vivre seul, etc. On avait beaucoup d'aide. On n'était jamais vraiment lâchés dans la nature comme on peut imaginer les scouts. Et moi, je me souviens que j'étais très envieuse des autres mouvements scouts parce qu'ils avaient ce côté beaucoup plus carré avec la tenue parfaite, beaucoup plus de règles. Nous, c'était un petit peu plus détendu, quoi.
Ouais. Assez drôle parce que chez moi aussi, c'était détendu et justement, j'étais contente que ce soit comme ça. On voyait souvent les autres parce que parfois, on avait des grands rassemblements avec différents groupes et on voyait les autres. Et je me souviens qu'il y en avait qui portaient un béret, par exemple, qui portaient une chemise et un pantalon. Il y avait deux éléments d'uniforme. Nous, on avait juste une chemise.
Pareil, une chemise et un foulard.
C'est ça. Mais il y en avait qui avaient toute la tenue, ouais.
Une petite question, quelles étaient les couleurs de ton foulard ?
Alors moi, j'étais à Talence, c'est la ville où j'habitais, qui se trouve juste à côté de Bordeaux. Et nos couleurs, c'était rouge et vert.
Ok.
Et chez toi ?
C'était bleu et jaune.
C'était Saint-Denis ?
Non, j'étais à Paris. C'était le groupe local de la Victoire et ça se situait près de Saint-Lazare.
Okay.
C'était sur la ligne 13 du métro et donc du coup, c'était assez pratique pour moi d'y aller parce qu'il n'y avait pas de groupe à Saint-Denis.
Ok. Donc, ouais, c'est ça en gros, les différents mouvements. Et donc, c'est vrai qu'il y avait des différences importantes entre eux, principalement, oui, pour ce qui était du degré de sérieux qui était impliqué dans tout ça. Si vous voulez bien, on va parler de ce qu'on a aimé chez les scouts, parce que c'est quand même une expérience importante dans la vie et il y a plein de choses positives à en tirer. Donc, on va raconter un peu ça.
Les ondes joyeuses.
Qu'est-ce qu'on a aimé chez les scouts ou chez les éclaireurs, dans ton cas ?
Alors, mine de rien, c'est là que j'ai rencontré mes amis et plus particulièrement ma meilleure amie.
Ouais.
Que j'ai rencontrée quand j'avais 8 ans et qui est toujours la même. Ça, bah forcément, je suis très reconnaissante d'avoir participé à ce mouvement-là parce que on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'allais à l'école, j'étais à Saint-Denis. J'avais quelques activités en dehors de l'école, mais je m'y étais pas vraiment fait de copains. Et donc, on allait du coup au scout le dimanche. On avait une activité un dimanche sur deux et on rencontrait comme ça plein de jeunes de notre tranche d'âge.
Ouais.
De notre âge, un peu plus jeune, un peu plus vieux. Puis en fait, j'y ai appris plein de choses. Forcément, quand on côtoie des gens qui nous ressemblent moins, et on apprend d'eux et j'ai appris qu'il y avait d'autres réalités que la mienne, forcément.
Ce qui est très important, ouais, pour les enfants.
Ouais. Voilà, je me suis fait des copains que je ne me serais pas fait autrement et je suis très contente d'avoir fait ça pour ça. Et toi ?
Moi, j'ai pas vraiment rencontré d'amis au scout parce que j'y participais avec une fille qui était mon amie déjà à l'école. Donc, on se connaissait avant. Mais c'est vrai que c'était vraiment bien. Je me souviens de faire quelque chose en dehors de l'école avec elle. On était vraiment très copines. Et c'était vraiment sympa de partager ça aussi en plus de l'école. Ça nous donnait un peu quelque chose en plus. Et ça, c'était vraiment bien. Et puis, ce que j'ai aimé moi aussi, c'était ce côté un peu indépendant que j'avais pas chez moi forcément puisque quand j'ai commencé à 8 ans évidemment j'avais jamais vraiment beaucoup été sans mes parents ou en tout cas sans ma famille et donc c'est vrai que d'être sans ses parents même si c'est pas facile quand on est enfant ça donne un sentiment d'indépendance, de liberté, on expérimente d'autres choses et puis on prend un peu des responsabilités aussi. Nous, même quand on était très jeunes, on faisait la cuisine. Je sais pas si c'était le cas chez toi.
Non.
Non.
Quand on est jeune, jusqu'à 11 ans, non, on fait pas la cuisine.
Ouais. Nous, on devait participer, bien sûr, on le faisait pas seul. Il y avait un animateur, etc. Mais on participait à préparer à manger, même parfois à faire les courses, faire la lessive, toutes les tâches un peu comme ça que je faisais pas du tout chez moi. Ça m'a permis de commencer à le faire et j'aimais bien ça, je me souviens. Et puis après, quand on est devenu plus âgé, vers 12 ans, on a commencé à faire des petites activités sans les animateurs aussi. On partait en randonnée en groupe de 6, de jeunes. On devait trouver notre itinéraire, notre chemin, parce qu'on n'avait pas Google Maps à l'époque.
C'est vrai, c'était sur les cartes.
Ouais, ça c'était vraiment cool de faire ça sans animateur. On se sentait grand, on se sentait responsable. On devait faire nos courses aussi, on avait un budget, on devait acheter notre repas de midi. Ça, c'était vraiment des bons souvenirs d'indépendance, de liberté, de prise de responsabilité. Et bizarrement, même si j'étais pas toujours contente du manque de confort parce qu'on campait beaucoup, ce que j'aimais bien, c'était me doucher dehors.
Je suis d'accord avec toi, j'ai des super souvenirs de ces douches en extérieur, au soleil, avec l'eau qui est toujours gelée, on ne sait pas pourquoi, mais
ouais,
c'était très cool. Très chouette. Nous, on construisait la douche
ouais.
Avec des morceaux de bois, des bâches, et en fait, on se douchait avec un tuyau d'arrosage.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, hein. Ok.
Parfois, on n'avait pas de tuyau, et là, c'était un peu plus embêtant, il fallait remplir des... fallait remplir des bidons avec de l'eau et ensuite s'en servir pour se doucher. Là, c'était un peu plus embêtant.
Non, ça, c'est pas drôle.
Mais se doucher avec le tuyau d'arrosage, j'avoue que j'aimais bien. En plus, on allait tout le temps se doucher en groupe de filles. Et c'était sympa, on était toutes en maillot de bain et c'était un peu une activité où on rigolait, on passait un bon moment en petit groupe, j'aimais bien ça.
Mmh, je suis d'accord. J'ai des souvenirs de douches en retour d'explo, tu sais, quand on part quelques jours du camp.
Ouais.
Alors nous, on campait pas quand on partait dans ces 3 jours, on allait dans les salles des fêtes.
Ah oui, nous aussi, ouais.
Des villages aux alentours. Et parfois, quand on revenait vraiment tard sur le terrain de camp, 3 jours après, on se douchait, mais je sais pas moi, je sais pas, 22h, 23h. Et ça, j'ai vraiment des super souvenirs de ces douches à la Belle Étoile.
Ah ouais, ouais, ça c'était cool. Ouais. Donc, plein de choses sympas quand même. Mais comme on en parlait quand on a eu cette discussion toutes les deux, il y a eu aussi des choses qui étaient un peu difficiles. Et donc, on voudrait aussi vous en parler, les amis, pour vous donner un peu les différents aspects, pas seulement les aspects positifs.
Je râle, tu râles, nous râlons.
Bon, alors c'est vrai que quand on a parlé toutes les deux de nos expériences avec le scoutisme, on avait des choses à dire qui n'étaient pas forcément positives, parce que c'est vrai que être en groupe, c'est pas toujours facile, surtout quand on est introverti.
Tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est vrai que c'est pas un mouvement qui est très adapté aux gens introvertis, en partie parce que, bah, comme tu dis, on est tout le temps avec des gens et que quand on est introverti, c'est épuisant,
ouais,
d'être constamment entouré de gens et de bruit.
C'est vrai. En plus, c'est souvent assez bruyant. En tout cas, le groupe dont je faisais partie, j'avais l'impression que c'était souvent bruyant. Il y avait des gens qui chantaient ou juste qui parlaient fort. C'est normal, c'est naturel, je pense. Quand il y a un groupe, on cherche à se faire entendre. Donc, tout le monde parle fort et parfois, ça peut être vraiment fatigant.
Oui, je suis d'accord. Et effectivement, comme tu dis, les gens parlent fort pour se faire entendre. Et parfois, ça peut être un peu aussi à celui qui va parler le plus fort et qui va le plus se faire entendre et se faire voir. En tout cas, au début d'un rassemblement, c'est souvent comme ça. Et puis ensuite, il y a des personnalités qui se font plus ou moins remarquer, reconnaître. Parfois, on va reconnaître des enfants parce qu'ils ont un certain talent qu'on n'a pas pu voir au début quand on voyait que ceux qui parlaient très fort et qui chantaient très fort. Mais oui, moi, j'ai mal vécu le fait d'être très, très introvertie, d'être timide sur les camps scouts, parce que déjà, c'est vu comme un défaut.
Ouais.
Clairement. En tout cas, c'est vécu comme tel. Moi, je le vivais comme tel. Peut-être que c'était pas perçu comme tel. C'était un peu la discussion qu'on avait entre ce que nous, on a ressenti et la réalité. C'est dur de savoir. Mais j'avais quand même l'impression que être timide chez les scouts, c'était quand même perçu comme quelque chose de négatif et que les animateurs avaient à cœur de faire en sorte qu'on s'ouvre et qu'on devienne moins timide grâce au groupe, etc.
C'est vrai, c'était pareil pour moi. On avait l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait changer, en fait. Et donc, ça pouvait être un peu difficile de sentir qu'on était peut-être pas comme il fallait, que peut-être on n'avait pas notre place parmi les autres. Moi, en tout cas, c'était vraiment l'impression que j'avais de pas tout à fait avoir ma place. En plus de ça, j'étais souvent dans le même groupe que ma sœur, qui a 1 an de plus que moi. Donc, on n'était pas chaque année dans le même groupe, mais souvent. Et c'est vrai qu'elle était, elle, très extravertie. Et donc, par comparaison, j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir ma place parmi les autres et de ne pas être assez intéressante, assez drôle, de ne pas avoir les bonnes choses à dire, le bon comportement. Pour les enfants qui ne sont pas extravertis, ça peut être un peu difficile.
Ouais, c'est marrant parce que je me dis, c'est aussi peut-être ce qui fait qu'on est là aujourd'hui en train de partager avec vous et d'avoir ce podcast et cette chaîne YouTube. Et je trouve qu'on voit souvent quand même sur YouTube, tous les créateurs de contenu, on remarque que quand ils se livrent et qu'ils racontent un peu leur histoire, il y a souvent un passé d'introverti.
Ouais.
Et YouTube, c'est un peu là où on trouve des gens qui nous ressemblent et des gens qui, au final, certes, parlent à des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes, mais ils sont seuls dans leur chambre, quoi, ou seuls dans leur studio.
C'est ça, exactement. On trouve un moyen de parler, de faire entendre sa voix, mais sans forcément être avec plein de gens tout le temps.
Ouais.
Mais c'est vrai que le scoutisme, c'était pas forcément adapté à ma personnalité, je pense, ou peut-être pas à la tienne non plus.
Non, clairement pas. J'en ai quand même globalement, je ne vais pas dire que des mauvais souvenirs, mais principalement des mauvais souvenirs des camps scouts, des journées avec les scouts. J'ai souvent été très malheureuse de ne pas me sentir à ma place, comme tu le disais. de pas sentir que j'étais comme il fallait, en fait, comme ce qu'on attendait de moi. Peut-être contrairement à toi, j'avais du mal à faire semblant, clairement. Je ne pouvais pas faire semblant, je pouvais pas parler fort quand je me sentais pas de parler fort. J'ai souvent eu ce sentiment de pas du tout m'intégrer. Alors heureusement, j'avais mes copines de toujours, qui étaient toujours avec moi et qui me soutenaient. Mais sur les camps, même à la toute fin des camps, je pouvais pas me dire que je m'étais fait des amis, quoi.
Ouais, bah moi c'était pareil. Hein. Faire semblant, j'ai pu le développer un peu plus tard, faire semblant d'être extravertie. Mais quand j'étais au scout, j'avais pas encore réussi à faire ça. Et c'est plus tard, mais ça m'a permis de comprendre que effectivement, de manière générale, être introvertie en société, c'était pas très bien vu dans la plupart des contextes et c'était perçu comme un problème. Et que pour être acceptée et pour pouvoir circuler dans différents milieux, il fallait parfois que je me force à être autrement.
Bah, c'est super fort. Non, c'est super fort parce que t'as complètement raison. C'est sûr que je sais que je suis passée à côté de plein d'opportunités en étant toujours introvertie. Mais bon, c'est comme ça. Hein.
Ouais, mais en même temps, je trouve ça fort aussi les gens qui arrivent à assumer d'être qui ils sont et à ne pas chercher à changer pour s'adapter et qui se disent juste « je suis comme ça ». Et je trouverai toujours des gens qui vont quand même bien me considérer et j'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je trouve ça bien aussi. Hein.
Ouais, je dirais pas que j'ai assumé, juste j'étais pas capable de faire autrement. Non, c'est vrai, parce que j'étais vraiment pas fière. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un truc qui clochait, quoi, tu vois, qu'il y avait un problème. Mais j'étais pas capable de faire autrement que d'être qui j'étais, ça c'est vrai. Mais ouais. Et puis, j'ai des souvenirs, et ça c'est fou, tu vois. Mais j'ai quand même des souvenirs assez marquant du rapport aux autres animateurs. Alors, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas du tout le même rapport aux adultes et à l'autorité, mais je me souviens très bien que, quel que soit mon âge, le niveau dans lequel j'étais au scout, je savais qui étaient les préférés des animateurs.
Ouais.
Et ça, c'était dur, dis donc.
Ouais.
Oh là là.
Et c'était jamais nous.
Et c'était jamais moi, bien sûr. Bon, c'était pas non plus, ça m'a jamais tant dérangé, mais juste, je le voyais. Je savais qui étaient les préférés. Et en devenant animatrice moi-même, enfin, je te le dis, Hélène, j'avais clairement des préférés. C'était
c'est
normal. Humain, en fait.
Mais oui.
C'est humain. Et c'est pas forcément toujours les grandes gueules hein, qu'on préfère.
Non. D'ailleurs, c'est drôle. Mon frère, qui a aussi été au scout, a rencontré sa copine là-bas. Ils sont toujours ensemble. Et elle était souvent dans mon groupe, puisqu'on avait presque le même âge. Et elle m'a dit, il n'y a pas longtemps, que j'étais la préférée d'une animatrice. Et moi, je ne le savais pas.
Oh.
Donc, peut-être que tu as été la préférée et que tu ne le savais pas.
Non, non, ça c'est sûr que non. Mais tu vois, c'est des choses qui marquent, tu vois, parce qu'encore aujourd'hui, ça te fait plaisir de le savoir, alors
mais
que
oui.
C'était il y a super longtemps. Donc, ouais. C'est quand même des choses qui marquent. Je trouve que c'est un mouvement qui est d'apparence assez anodin.
Ouais.
Et en fait, il s'y passe des choses qui marquent les gens vraiment au fer rouge et pour très très longtemps et qui façonnent les personnes que l'on devient. Et donc, le rôle des animateurs, il est vraiment crucial parce que l'influence qu'ils ont sur les enfants, elle ne se joue pas que pendant ces quelques semaines sur le camp d'été, mais sur une vie entière. Et parfois, il y a des paroles qui sont dites ou des gestes qui sont faits qui ont des répercussions pendant des années et des années. Et les gens ne se rendent pas forcément compte.
Ouais, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. De manière positive ou négative?
Oui, bien sûr, exactement. Et moi, j'ai vu des vies transformées en bien, des personnes sortir de leur cocon, devenir de plus en plus épanouies parce qu'ils rencontrent les bonnes personnes au bon moment, en fait. Les jeunes autour de soi, parce que c'est vrai qu'aussi, bah, parfois, on a de la chance. Moi, j'ai toujours eu plus ou moins de la chance. J'ai toujours été bien entourée avec des gens bienveillants autour de moi. Et ça m'a aussi forgée. J'ai quand même eu des amis chouettes. Mais parfois, quand on rencontre les bons animateurs au bon moment, qui arrivent à dire les bons mots, ben, ça peut changer vraiment beaucoup de choses.
Ouais, totalement. Je suis bien d'accord. Bon, pour finir, les amis, on aimerait vous faire une petite recommandation culturelle. C'est un film absolument culte qui traite plus ou moins de ce sujet parce que ça parle d'une colonie de vacances. Ça s'appelle « Nos jours heureux ».
La Minute Culture. J'adore ce film, il est extraordinaire. Il est drôle, il est drôlissime.
Ouais, il est sorti il y a une vingtaine d'années, mais je trouve qu'il a plutôt bien vieilli.
Ah oui, non, mais je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, ce film. Il a extrêmement bien vieilli, parce qu'en fait, je pense que ce qui se passe à ces colonies de vacances, c'est toujours la même chose. Ce qui se joue entre les gens et les rapports humains sont toujours les mêmes. Et oui, c'est hyper drôle. Alors, forcément, maintenant, il y a plus de moyens avec les smartphones, etc. Ce serait pas exactement la même chose s'il fallait le filmer à nouveau. Toi qui l'as vu il y a pas longtemps, qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui t'a rappelé des souvenirs de colonies?
Bah déjà, le chaos général dans la colonie de vacances, où rien ne se passe jamais comme prévu. Ça, c'était vraiment un élément clé de tous les camps d'été. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Et les animateurs qui sont souvent aussi irresponsables que les jeunes, ça, bon...
Si ce n'est plus, hein.
Ouais, 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 parce qu'ils ont plus de responsabilités, donc c'est plus grave. Mais c'est vrai qu'il y avait des animateurs, on voyait, qui étaient vraiment pas responsables. Heureusement, il y en avait toujours d'autres qui pouvaient compenser, et c'est ce qu'on voit dans le film aussi. Et ouais, on voit que personne n'a les choses en main, clairement.
Mais c'est vraiment un miracle qu'à la fin, tout le monde rentre sain et sauf avec globalement des bons souvenirs, quoi.
C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment drôle. C'est des scènes comiques, réalistes, des histoires d'amour, des histoires d'amitié. C'est vraiment un super film, ouais.
Et puis, avec l'anti-héros qui devient super cool parce qu'on apprend qu'il joue à la guitare et qu'il joue super bien de la guitare, ouais, autour du feu.
Ouais, 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 c'est génial. C'est vraiment super. Et puis aussi, le héros du film qui a rencontré sa... Enfin, on va peut-être pas tout dévoiler,
ouais,
mais en tout cas, une rencontre amoureuse décisive qui s'est faite pendant ce camp d'été. Et ça aussi, c'est récurrent. Je connais beaucoup de gens qui ont rencontré leur mari ou leur femme chez les scouts. Donc, c'est un bon endroit pour se rencontrer.
Ouais.
Bon, sur ce, les amis, on espère que vous avez apprécié cet épisode. On espère que vous avez pu vous reconnaître, peut-être, ou que ça a fait écho à des choses chez vous. N'hésitez pas à nous partager vos ressentis sur cet épisode. C'est facile, il suffit de nous envoyer un message vocal sur easyfrench.fm.
À la semaine prochaine, les amis. Et pour ceux qui sont abonnés, on vous dit à tout de suite dans le bonus où nous allons vous partager encore quelques éléments plus personnels de notre expérience avec le scoutisme en France.
À bientôt.